multiples interruptions des programmes de vaccination anti-polio en raison de l'insécurité ou de l'hostilité des parents. La polio est une maladie invalidante qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant également atteindre l'appareil respiratoire. Le virus de la polio se propage à grande vitesse et sa cible de prédilection sont les enfants qui sont déjà vulnérables en raison du paludisme et de la malnutrition.
Merci Félix.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Le 9 octobre dernier, l'ONU-SIDA a signalé un protocole d'accord avec les autorités de la République centrafricaine. Le but de cet accord est de réduire les nouvelles infections à VIH parmi les militaires, réduire les violences sexuelles et les abus commis par les militaires et augmenter l'utilisation des services de prévention, de traitement du VIH et de soutien au personnel en uniforme et leurs familles. Depuis Bangui, la capitale centrafricaine, nous avons joint Michel Sidibé. Il est le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il nous parle de cet accord, mais aussi de la cible 90-90-90 fixée par cette organisation à l'horizon 2020.
En 2011, l'ONU-SIDA s'était battu pour faire en sorte qu'on puisse aller au Conseil de sécurité. Et on a eu une résolution du Conseil de sécurité 1983 et qui faisait le lien entre le VIH et les violences contre les femmes en période de conflit ou post-conflit. Et c'était très important dans cette lignée de faire en sorte qu'en République centrafricaine, on puisse signer un protocole d'accord pour faire en sorte que les forces de sécurité et de défense soient formées, soient testées, en sachant très bien que en République centrafricaine, ces forces ont deux fois plus de prévalence du VIH que la population générale. Donc, on voulait vraiment porter le coup, montrer que la plupart des transmissions se font aussi à travers des violences. Donc, on voulait combattre cette violence basée sur le genre et en impliquant surtout les hommes en uniforme.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous avez signé l'accord?
Je crois que ce qui est très important, c'est de faire en sorte que les gens comprennent. J'étais au Sud-Soudan, c'est la même chose. Les hommes en uniforme contribuent à peu près à 43% des nouvelles infections au Sud-Soudan. Et là, ce matin, j'étais à Paoua et je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 150 à 200 femmes qui viennent chaque mois vers les services de santé parce qu'elles ont été victimes de violences. Et ces violences sont portées malheureusement par des groupes armés, par les hommes en uniforme. Donc il faut déjà aller vers un programme de sensibilisation très large. Deux, il faut faire en sorte qu'il y ait un dépistage systématique et qu'on puisse mettre les personnes qui sont déjà positives sous traitement, parce qu'on sait que lorsqu'il y a une suppression de la charge virale, même s'il y a des actes de violence, au moins le risque de transmission devient beaucoup plus faible. Mais en plus de tout cela, il faut travailler sur l'éducation et la prévention. Et c'est ce qu'on va faire avec, bien sûr, la MINUSCA et les forces qui sont en place en République centrafricaine.
Oui, parlons maintenant du VIH-SIDA de manière générale. L'un des objectifs fixés par votre organisation et les pays membres est d'atteindre la cible 90-90-90 à l'horizon 2020. Et on se rapproche de cet horizon. Êtes-vous toujours optimiste? Quel est le bilan à l'heure actuelle?
Si nous prenons le cas de la République centrafricaine, parce que je voudrais insister sur les pays en conflit, les pays en situation de crise humanitaire, je crois qu'on est en train de payer le prix de l'oubli. Aujourd'hui, on a plus de 600 000 personnes déplacées sur une population de 4 millions en République centrafricaine et on a plus de 7 000 nouvelles infections chaque année. On a moins de 20% des enfants qui ont accès au traitement, moins de 30% qui ont accès au traitement chez les adultes. Donc, on est loin des 90-90 au niveau des pays qui sont pratiquement laissés pour compte. Quand vous avez une population de 60% qui se trouve laissée pour compte parce qu'il n'y a pas d'accès, parce qu'il y a une division par moment liée à des luttes fratricides, c'est un problème. C'est pour cette raison que autant on est en train de gagner sur les 90-90 dans les zones stables, dans les pays où on avait une épidémie très forte, par exemple en Afrique australe, un peu partout, autant dans les zones à conflit, l'épidémie s'étend. C'est pour cette raison que je me bats pour faire en sorte qu'il y ait une certaine visibilité. Et particulièrement à cause de la violence contre les femmes et les jeunes filles.
Au-delà donc de la violence faite aux femmes et puis des situations en zone de conflit, quels pourraient être les autres obstacles qui pourraient se dresser dans les politiques menées pour atteindre cet objectif de 90-90-90?
Il faut nécessairement, sur ces pays, renforcer les capacités. Il y a un déficit en capacité qui est extraordinaire. Il y a aussi une faiblesse des ressources qui sont investies sur la lutte contre les maladies. Il y a un oubli, souvent, je dirais, de respecter la santé, le droit de la santé des personnes dans ces zones fragiles et touchées par les conflits. Mais ceci étant, au niveau mondial, moi je dirais qu'on risque, il y a de grandes chances qu'on atteigne nos cibles de 90-90-90. Il y a à peu près 13 ou 14 pays où on pourrait même éventuellement dire qu'on va contrôler l'épidémie en 2020. Et ça, c'est pour moi un résultat très important. Nous avons de moins en moins d'enfants qui naissent avec le sida. On a une mortalité qui est réduite de 50%. Donc il y a quand même vraiment un effort important qui a été entrepris grâce à la solidarité globale.
Et la question du financement reste cruciale pour atteindre vos objectifs et pour éliminer le sida, l'épidémie d'ici 2030. Est-ce que vous avez l'impression que les bailleurs de fonds restent toujours mobilisés? Est-ce qu'il y a des craintes à ce propos?
Moi, je pense qu'on est victime un peu de nos succès. Le fait qu'on a produit des résultats, les gens sont tombés dans une nouvelle forme de conspiration que j'appellerais la conspiration de la complaisance. On a l'impression que c'est fini, qu'on a gagné contre cette épidémie. Donc, les ressources investies ne sont pas au niveau des investissements qu'on estimait avoir. On a un déficit de 7 milliards à peu près de dollars et je crois qu'il est indispensable de continuer à interpeller le monde afin qu'on puisse mettre fin à cette maladie en tant que problème de santé publique et qu'on n'assiste pas à un rebond de l'épidémie comme on l'a vu dans le cas du paludisme, dans le cas de la tuberculose. Aujourd'hui, on est en face d'une tuberculose résistante, alors qu'on a même des traitements, disons, on a une cure pour la tuberculose. Donc, il faut surtout ne pas perdre cela de vue, et il faut faire en sorte que les investissements continuent. Mais aussi, il faut que le monde comprenne que le sida, ce n'est pas seulement le sida. Il faut sortir le sida de son isolement. Le sida, c'est la santé maternelle, c'est la santé de l'enfant, c'est le renforcement des systèmes de santé, c'est le lien avec le cancer du col de l'utérus.
Alors, l'une des avancées parmi les outils de prévention, c'est la prophylaxie. Exposition avec notamment le Truvada qui malheureusement n'est pas encore assez accessible en Afrique. Est-ce que l'ONU SIDA est impliqué pour permettre un meilleur accès de ce traitement, de cette prophylaxie et des traitements les plus innovants, les plus récents sur le continent?
Et c'est tellement important ce que vous venez de dire. Je me suis battu pour qu'on puisse avoir avec l'appui de la Suède, de la Fondation Gates, pour qu'on aille vers une réduction du prix de ces médicaments de première classe. Et ces médicaments sont indispensables et aujourd'hui, on a permis que l'Afrique ait accès à ce médicament parce qu'on sait que d'abord, ça permet justement de combattre les résistances, ça permet de faire en sorte que les effets secondaires soient complètement, ne soient pas visibles. Et aujourd'hui, on se bat pour aller vers la pré-exposition du traitement pour permettre justement que dans les cas de, par exemple, des travailleuses du sexe en Afrique australe, dans les cas des communautés gays, on essaye de faire en sorte que ces personnes soient exposées à ce traitement qui est très efficace.
Alors, il y a aussi la recherche qui ne semble pas beaucoup avancée, vous me direz si je me trompe, la recherche d'un traitement curatif et d'un vaccin contre le VIH-Sida. Où en est-on exactement et y a-t-il espoir de mettre un terme à l'épidémie d'ici 2030 sans avoir trouvé un vaccin ou un médicament qui guérit définitivement les malades?
Moi, je pense qu'il n'y a aucune maladie transmissible qu'on peut contrôler et éliminer. Je dis bien éliminer, j'utilise le mot éliminer, sans vaccin ou sans cure. Donc, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse relancer le débat autour de la prévention, parce que ça, c'est très important. Les outils de prévention que nous avons pour faire en sorte que l'infection primaire soit vraiment éliminée. Et on essaye de faire en sorte qu'on puisse donner le traitement au maximum de personnes et très tôt pour qu'il y ait une suppression de la charge virale, donc de l'activité du virus dans le sang, pour qu'il n'y ait plus de transmission. Mais tout cela va nous aider à contrôler l'épidémie, ne va pas nous aider à l'éliminer. Donc le vaccin est en cours, c'est pas facile, mais moi j'ai des espoirs. Je pense qu'on pourra certainement bientôt avoir, dans peut-être 5 ou 6 ans, un vaccin qui sera beaucoup plus efficace que le vaccin que nous avons, qui a une efficacité de 30%, on pourrait aller vers des efficacités de 60%, ce qui serait déjà pas mal. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut utiliser la panoplie des réponses que nous avons pour nous permettre justement d'aller vers le contrôle de cette épidémie. Et c'est possible, c'est possible. Moi, je vois des espoirs extraordinaires quand je regarde des pays comme l'Afrique du Sud. On avait à peine 90 personnes sous traitement en 2001. Aujourd'hui, on a 4 300 000 personnes sous traitement. On a une réduction de la mortalité qui est vraiment significative. On a un contrôle de l'infection de plus en plus chez les adultes. Et bon, il faut atteindre les hommes. On n'arrive pas à atteindre les hommes. Et là, c'est un grand défi. Parce que lorsque ces hommes ne sont pas testés, lorsque ces hommes ne sont pas sous traitement et que ces hommes sont positifs, bon, il y a le cycle vicieux de la transmission avec les jeunes filles.
C'était donc Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Et comme vient de nous le dire le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, les zones en conflit sont à la traîne et pourraient retarder l'atteinte de la cible 90-90-90. Si la sensibilisation des personnels en uniforme est cruciale pour mettre un terme aux violences sexuelles et risques de propagation des infections sexuellement transmissibles, il est aussi utile de se pencher sur les cas des déplacés de guerre. Des déplacés qui, du fait de la promiscuité, de l'oisiveté ou des besoins de survie, développent des pratiques à risque. À Oïcha, une localité située à une soixantaine de kilomètres de Béni dans le Nord Kivu, se trouve un camp de déplacés. Là-bas, notre correspondant Erika Somouissi a rencontré Mouti Mavisa Kambale, le président du comité des déplacés. Il a accepté de nous raconter leurs conditions de vie et leurs problèmes de santé.
Je réponds au nom de Mouti Mavisa Kambale Nzoera. Je suis le représentant des déplacés de guerre qui a affecté le secteur Benimbao.
Alors, est-ce qu'il y a des risques de maladie? Et ici, au site même, nous pouvons parler de certains cas de prostitution.
Et d'abord, je vais parler de la condition de vie en général que mènent les déplacés. Depuis que les déplacés sont arrivés ici, dans un premier temps, il y a les autochtones qui étaient mobilisés. Il y a des églises qui étaient mobilisées. Il y a eu des associations de jeunes qui étaient mobilisées à faire des petites collectes de vivres pour ainsi partager à se déplacer. Cette assistance n'a pas perduré. C'est une assistance qui peut durer 2-3 jours. Bon, il y a eu maintenant les déplacés qui mènent une vie très critique, ne sachant quoi faire. Ils se sont obligés de faire des petits travaux journaliers pour se procurer un peu de l'argent, pour payer ne fût-ce que les vivres aux enfants. Ils se donnent aussi dans les travaux de ramassage des noix de palme qu'ils doivent congasser pour ainsi vendre un kilo revient à 150 ou bien 200 francs pour payer un peu de la nourriture du sombé pour se procurer à vivre. Bon, maintenant, le risque. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous courons beaucoup de risques. Il y a les risques des maladies, il y a les risques de prostitution, il y a aussi des risques d'attraper quelqu'un en train de se ravitailler dans les champs d'un autochtone. Bon, on les suppose comme un voleur. Beaucoup de risques que nous courons ici. Bon, nos frères pygmées, ils n'ont pas cette habitude-là de se mélanger parmi d'autres populations qui n'est pas pygmées. À se séparer d'autres populations, ils n'ont pas vraiment cet accès-là d'avoir des vivres, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et le prendre, aller faire des travaux dans les champs. Ils ont tendance de rentrer là où ils ont quitté pour aller chercher des vivres dans des champs là-bas. Et quand ils arrivent là-bas, il y a risque de se rencontrer avec les égorgeurs et il y a d'autres qui perdent leur vie là-bas. Deuxièmement, ici dans les sites, les gens sont venus avec des jeunes filles non mariées. Ils sont venus avec des garçons. Maintenant, en vivant ensemble, maintenant, ils ont tendance de pratiquer la prostitution.
Est-ce qu'il y a certains cas de maladie qui peuvent avoir été détectés?
Bon, je peux parler très fréquemment des IST, les maladies telles que la blénorragie, le syphilis. Ça, c'est très fréquent parmi les déplacés. En faisant la débauche, se croiser avec une personne qui n'est pas son partenaire, ils attrapent de telles maladies.
Alors ici dans les camps, est-ce que ces déplacés bénéficient d'une assistance de manière particulière?
Ici dans les camps, surtout nous comme les représentants, nous faisons des plaidoyers et il arrive un moment où une ONG peut apporter des vivres et puis apporter aussi des non-vivres. Mais ce n'est pas le plus souvent, c'est des cas très rares.
Alors à qui s'adresse-t-on quand il y a un cas de maladie et de quelle manière les traitements se passent?
Quand il y a maladie, nous avons fait tout moyen d'avoir un bureau pour le comité de déplacés. Quand il y a un cas d'une maladie, le malade s'adresse directement à ses bureaux. Et les bureaux disponibilisent un petit jeton et le malade part tout droit avec ce petit jeton au centre de santé où une ONG a déployé de médicaments comme une assistance aux déplacés.
C'était donc Mutima Vissa Kambale, président d'un comité de déplacés en RDC. Pour protéger les déplacés dans les zones de conflit, les États ont mis en place des normes et des conventions internationales relatives aux droits humains. Parmi ces droits, il y a le droit à la santé. Et pour favoriser l'accès à ce droit, des organisations nationales et internationales se mobilisent. C'est le cas de l'ONG Global Refugee International, une ONG américaine. Le docteur Philippe Kyunyu, un médecin congolais, travaille pour le compte de cette ONG. Il a accepté de nous parler des problèmes de santé et de la prise en charge médicale des déplacés.
Les IST et le VIH, c'est vraiment un problème de santé publique parmi les déplacés que nous assistons ici à Oicha.
Alors, quelles sont les autres maladies courantes dans les camps des déplacés?
Dans les camps des déplacés, nous avons beaucoup plus le paludisme, comme nous sommes dans une région endémique. Nous avons les maladies respiratoires, surtout chez les nourrissons et les grands nourrissons. Vous avez les maladies diarrhéiques, mais aussi les maladies dermatologiques, ce que nous appelons les maladies de la peau. Et c'est l'ensemble de ces maladies que nous découvrons beaucoup plus chez les déplacés.
Alors, qu'effet Global Refugee International dans les camps de déplacés pour pouvoir éviter la propagation du VIH-Sida et les IST en général?
D'une façon générale, Global Refugee s'est fixé comme objectif d'aider les déplacés et surtout de les sensibiliser par rapport aux défis que les IST et le VIH présentent face à la population sanitaire de la zone de santé d'Oicha. Et alors que Global Refuge, de fois que nous avons nos cliniques mobiles dans différents sites, nous sensibilisons les patients et les déplacés sur l'importance de bien se protéger face aux IST, surtout avoir une relation sexuelle responsable. À ceux qui sont mariés, nous demandons à ce qu'ils se tiennent à la fidélité. Et ceux qui n'ont pas de mari ou alors les jeunes, comme la sexualité, c'est aussi un problème chez les jeunes. Nous les conseillons beaucoup plus d'utiliser les préservatifs. Mais beaucoup plus nous insistons sur la propreté des latrines et des lieux d'aisance. Ce que il faut que les parents, même s'ils sont déplacés, qu'ils tiennent beaucoup plus à la propreté des latrines, des douches, pour éviter les IST, parce que deux fois, c'est par le manque de propreté des latrines que beaucoup plus les filles, les petites filles et même les enfants peuvent s'infecter par les IST, à part les grandes personnes qui, d'une façon générale, c'est par voie sexuelle.
Et quels sont les droits d'un déplacé, notamment sur les plans de santé?
Sur les plans de santé, chez GRI, il y a tant de maladies que nous ne pouvons pas soigner faute de l'autorisation, parce que avec la zone de santé, nous avons signé un accord de partenariat. Nous avons un certain nombre de pathologies que nous traitons, et donc si les déplacés se trouvent dans cette catégorie de pathologies que nous prenons en charge, il a droit à la consultation d'abord. Et quand il passe de la consultation, je peux l'envoyer au laboratoire pour certains examens des laboratoires. Et après les examens des laboratoires, je peux alors prescrire un traitement spécifique par rapport aux résultats des labos.
Nous remercions le docteur Philippe Kyunyu qui était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Et voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu à toutes vos questions. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons. C'est en France.
Bonjour docteur, je suis Ornélie Moulamba de Beni, en République démocratique du Congo. Dans nombreuses familles, l'on observe une différence dans la ressemblance des enfants. Tantôt l'enfant ressemble à la maman, tantôt au papa. Qu'est-ce qui est souvent à la base de cette différence?
La différence physionomique que l'on observe chez les enfants d'une même famille, d'un même couple, est essentiellement liée au fait que, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, les enfants, bien qu'étant issus d'une même famille, d'un même père ou d'une même mère, ne reçoivent pas forcément le même patrimoine génétique de leurs parents. Ils auront, de ce fait, du moins ces enfants, auront une physionomie très souvent différente, à savoir une différence dans la couleur des yeux, dans la forme du nez, dans la forme de la bouche, dans la texture des cheveux, bref, une différence dans la constitution de leur visage. Avec toutefois la persistance d'un trait familial que l'on peut bien observer. La transmission du patrimoine génétique à chaque enfant est un fait du hasard et s'inscrit dans une espèce de loterie familiale, une espèce de tirage au sort au sein de la famille. Ce n'est ni le fait du père, ce n'est ni le fait de la mère, ça repose essentiellement sur un fait de hasard.
Si vous aussi vous avez des questions, des observations ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique.
Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux infections sexuellement transmissibles dans les zones de conflit. Un sujet qui préoccupe l'ONU-SIDA, qui vient de signer un protocole d'accord avec les autorités de la République centrafricaine. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Michel Sidibé. Il est le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Nous avons aussi écouté le témoignage de Mutima Visa Kambale, représentant d'un comité de déplacés dans le Nord Kivu, une zone en conflit en RDC. Il nous a raconté les conditions de vie et les difficultés auxquelles font face les déplacés au quotidien. Nous avons enfin écouté le docteur Philippe Kyunyu. Il est médecin et travaille pour le compte de Global Refuge International, une ONG qui s'occupe des déplacés et réfugiés en RDC. Nous leur disons merci d'avoir participé à ce programme.
Un grand merci à Félix Yepassis Zebrou qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC qui ont aidé à la préparation de cette édition. Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni. Cette édition a été réalisée par Tchèque Thierro et Carl Starlin qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.